and I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
Je vous aime, vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation.
Et bonjour à tous et toutes, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle émission du 12e homme. Je suis ravi d'être là pour cette nouvelle émission. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Au programme du jour, la 26e journée de Ligue 1, on parlera de la course à l'Europe et des stades de Ligue 1. Thomas nous fera un petit classement des stades en Ligue 1. Et ensuite, on voyagera dans l'univers de la Super League. Tout de suite, les résultats de la 26e journée de Ligue 1. Nice et Auxerre se neutralisent un partout, tout comme Lens et Lille. Paris assure face à Nantes en battant les Canaries 4 buts à 2. 3 fait match nul contre Monaco à domicile 2 partout. Montpellier atomise Angers 5 à 0. Reims poursuit sa série en battant Ajaccio 1-0. Brest obtient trois points très importants pour le maintien en gagnant à Strasbourg 1-0. Clermont surprend Toulouse chez lui 1-0. Lyon et Lorient se quittent sur un score vierge. Et Marseille réussit à gagner à Rennes 1-0.
Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper.
Ah oui, à quoi vous faites allusion?
On va s'en occuper.
Et on enchaîne avec notre premier point de cette page Ligue 1. C'est Thomas qui nous a concocté un classement dont lui seul a la recette, un petit classement des stades avec des critères très fins, il me semble, Thomas.
Ouais, ce week-end, j'avoue, j'ai regardé quelques matchs de Ligue 1 et je me suis un peu ennuyé. j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette Ligue 1? Et en fait, j'ai trouvé que, je pouvais rien dire. Du coup, j'ai voulu prendre un sujet un peu plus léger, un truc un peu plus sympathique, c'est faire un classement des stades. Parce que le stade, pour un supporter, c'est quelque chose quand même d'important, c'est sa deuxième maison, on va dire.
C'est le cœur du club, vraiment.
Donc j'ai fait un classement, subjectif, je vais pas vous mentir, sur plusieurs critères. J'ai fait un critère sur l'architecture, un critère sur l'ambiance, un critère sur la pelouse, la qualité de la pelouse, un critère sur l'histoire du stade et l'histoire du club dans le stade, parce qu'il y a des clubs qui ont changé de stade. Et l'effet télévisuel, c'est-à-dire comment le stade rend à la télévision, comment la caméra, comment c'est filmé si on est proche du terrain, loin du terrain. Donc voilà. Alors ça m'a donné un petit top 5. En premier, j'ai mis le stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Alors pour le côté architecture, je trouve que c'est déjà un des plus beaux stades qu'on a en France. Avec les travaux
surtout une rénovation réussie par rapport à d'autres stades, quoi.
Belle rénovation qui casse bien le vent d'ailleurs avec le Mistral. Bon, au niveau place, c'est le deuxième plus grand stade qu'on a en France. Pour ce qui est de l'ambiance, je sais même pas si je vais en parler. Je pense que c'est le stade où il y a la meilleure ambiance en France, même si les supporters des fois ils quittent le stade à la 84e minute quand ils perdent contre Paris 3-0. Petit bémol sur la pelouse, par contre, la pelouse, elle est pas en excellente qualité pour un stade de ce standing. Je trouve que la pelouse, c'est à revoir pour les jardiniers. Pour l'histoire du stade, stade mythique, qui a vu plein de gros matchs. Il y a eu des matchs de Coupe d'Europe, des matchs contre le PSG, notamment avec la tête de Boli là, à l'entrée de la surface qui vient transpercer les filets. Pareil pour l'effet télévisuel, je trouve que c'est un stade qui rend bien à la télé. Avec bonne façon de filmer, donc je trouve ça intéressant. Pour le deuxième, j'ai mis le Parc des Princes. Alors il n'y a pas de favoritisme entre l'OM et le PSG. J'ai mis le stade du PSG deuxième. Alors pareil pour l'architecture, je trouve que c'est un très beau stade, pareil, vraiment très bien fait. L'ambiance, il y a une bonne ambiance quand même au Parc des Princes, 40 000 supporters à peu près, 44 000 je crois. Il y a une bonne ambiance, la pelouse, par contre la pelouse là on peut dire qu'il y a une vraie pelouse parce que elle tient. Après quand t'as Messi qui marche sur la pelouse, il va pas trop l'abîmer. Mais la pelouse tient bien. L'histoire, l'histoire de ce stade, il est mythique.
Et pas que pour le foot.
Il y a eu plein de trucs, Moi, franchement, le premier truc qui me vient à l'esprit, enfin, il y a deux trucs qui viennent à l'esprit dans ce stade, c'est la tête de Comboré contre le Real en Coupe d'Europe, et le centre raté de Ginola et Kostadinov qui marque derrière en 93, qui vient éliminer la France pour les qualifs à la Coupe du Monde 94. Voilà. Pour l'effet télévisuel, pareil, je trouve que c'est un stade qui rend bien à la télé. En troisième stade, ça commence à être plus serré. J'ai mis le stade de Bollaert. L'architecture, je trouve que c'est un beau stade. Ce que j'aime bien, enfin, ce que je trouve vraiment super bien dans ce stade, c'est la tribune latérale qui, en fait, c'est le cop des supporters. Je trouve ça bien d'avoir la...
C'est inédit, ouais. Pas le stade.
Je trouve ça, mais alors, super bien. Ça, t'es encore plus près du terrain. Bon, l'ambiance, pareil, je trouve qu'après Marseille, c'est la plus belle ambiance en France. Enfin, en France. En Ligue 1, parce qu'il y a Saint-Etienne aussi. La pelouse est correcte, on va dire. L'hiver, elle a un peu de mal à passer l'hiver. Pour ce qui est de l'histoire du stade, y a quand même une belle histoire aussi. Il y a des matchs de Coupe d'Europe, il y a un titre de champion de France aussi qu'ils ont pris. Bon, ils l'ont gagné pas dans leur stade, mais enfin ils l'ont gagné dans leur stade, mais le jour de la victoire c'était à Auxerre, il me semble. Donc belle histoire. Pareil pour l'effet télévisuel, je trouve que c'est un stade qui rend plutôt bien à la télé. En quatrième, j'ai mis le stade de Strasbourg, la Méno.
La Méno, toujours plein.
Alors ça c'est un truc quand même qui est assez fou. Ils avaient beau être dans les derniers, même derniers, le stade était guichet fermé tout le temps. Ça c'est assez sympa. Donc pareil, l'architecture, c'est un vieux stade. J'aime bien les vieux stades un peu comme ça, comme en Angleterre où t'as les stades comme à Fulham où t'as les piquets qui tiennent le toit qui passent entre les sièges des spectateurs. Ça, je trouve ça tellement drôle. L'ambiance, il y a toujours une bonne ambiance. La pelouse, une pelouse correcte pour un stade de Ligue 1. L'histoire, forcément, c'est un vieux stade, donc il y a une grande histoire dans le stade. Bon, j'avoue, je connais pas toute l'histoire de Strasbourg non plus. Et l'effet télévisuel, je trouve que, pareil, c'est un stade qui rend bien à la caméra. Le dernier stade de ce top 5, donc le cinquième meilleur pour moi, c'est le stade de Auxerre, la Baie des Champs.
Auxerre.
Ah, grosse chance. Ah, ouais. Personne s'attendait à ça. Hein. Alors, l'architecture du stade, j'aime bien. C'est pas le plus beau stade, il y a d'autres stades qui sont plus beaux. Moi je pense à Nantes par exemple, à Beaujoire, je trouve ça plus joli. C'est un stade ouvert, j'aime pas les stades ouverts, j'aime bien les stades plutôt fermés, comme en rond quoi. Ensuite, l'ambiance, il n'y a pas trop d'ambiance, enfin, il n'y a pas énormément d'ambiance. J'avoue, bon, le critère, vous allez vite voir le critère de pourquoi j'ai pris le stade de
Auxerre,
c'est pour l'histoire, pour Giroud, pour tout, pour toutes les histoires qu'il y a dans ce stade, avec les douches qui fermaient le robinet d'eau chaude, leur récupérer les ballons. En Coupe d'Europe, les matchs de Coupe d'Europe qu'ils ont fait justement, parce qu'ils ont fait jouer contre le Real Madrid dans ce stade quand même, faut l'oublier. Donc voilà. Alors, je me permets de mettre un sixième stade, hors classement,
sixième.
Un stade un peu bonus, ça, c'est le podium des cinq, c'est le Stadium de Toulouse, parce que oui, c'est le stade de mon équipe, et donc je trouve que c'est, déjà, c'est je crois le dixième plus grand stade de France, donc 33 000 places. C'est un très beau stade qui a été construit pour la Coupe du Monde 98, je crois. Le niveau de l'ambiance, on peut dire que depuis deux ans,
c'est un stade qui s'est réveillé. Ouais.
Là, ça vient concurrencer pas mal de stades. Pareil, niveau de la pelouse, alors elle peut être très très bonne, comme très très mauvaise. Il y a des périodes où elle est vraiment, c'est un billard, et d'autres où c'est un champ de patates. L'histoire de ce club, de ce stade, enfin du club dans le stade, c'est beaucoup de mauvais moments, notamment en Ligue 1 les dernières saisons, mais c'est aussi des très bons moments comme en 2005, en 2006, avec la Ligue des Champions, Liverpool qui vient jouer au Stadium, qui pourrait imaginer ça aujourd'hui? Peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer, on va dire, au flop 5, hein, des stades un peu moins bons.
Ouais.
Alors le pire stade de Ligue 1. Pour moi, c'est le stade d'Angers. Alors, déjà...
Angers, stade Raymond Coppa, c'est ça?
Exactement, ouais. Stade Raymond Coppa, qui a été... en fait, il a été totalement refait. Ils ont fait un stade un peu à l'anglaise, avec les bancs de touche qui sont face à la caméra. Bon, le stade en soi, il est pas moche, mais il n'y a pas d'ambiance, en fait. Il n'y a personne dans le stade.
Ça aide pas quand t'es bon dernier.
Voilà, avec... l'entraîneur a dit, bon, je pense que c'est fini pour le maintien, on va jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Il a dit ça publiquement, quand même. Ça fout un coup aux joueurs. La pelouse, bon, elle est plutôt bonne. L'histoire du club. En fait, j'ai l'impression que dans ce stade, il y a un nom pour l'histoire, c'est Raymond Coppa, voilà, c'est tout. Après, il ne s'est pas passé grand-chose. Si, il s'est passé quelque chose d'important dans ce stade, c'est le maintien de Toulouse à la dernière journée avec le coup franc de Bodiger. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Ensuite, le deuxième pire stade, je sais que ça ne va pas plaire à Phileas, mais c'est l'Allianz Riviera et le stade de Nice. Alors, architecture, bon, il n'est pas moche, c'est un joli stade en soi. L'ambiance, elle est pas mal, mais je pense que c'est une des meilleures ambiances de Ligue 1, c'est sûr, mais il y a vraiment du potentiel pour que l'ambiance soit vraiment meilleure. Je sais plus s'ils font toujours le tour de l'aigle avant le début.
Si, ouais, il y a toujours le tour, au début.
Comme ça fait penser un peu comme à Benfica où ils font le tour.
De toute façon, je crois que j'avais regardé, il y a une dizaine de clubs maintenant qui le font avec l'aigle comme mascotte.
La pelouse, bah, elle est plutôt bonne, même si il peut y avoir quelques petits défauts des fois. Bah, l'histoire, en fait, l'histoire, ça qui est compliqué. Parce que l'histoire dans le stade de ce stade-là de Nice, il n'y en a pas, vraiment.
Non, mais ça fait 10 voilà, ans, 10 ans là, 10 presque.
En 10 ans, tu ne peux pas écrire l'histoire d'un club. Tandis que dans l'ancien stade, le stade du Ré, là, il y avait de l'histoire. Et là, il y avait de l'ambiance. Moi, je me rappelle de matchs là, contre, avec Antonetti sur le banc, là.
Ouais.
Il gueulait. C'était, franchement, là, franchement, si ce stade avait été encore... pour Nice, bon après, il y a bien sûr des mesures financières, c'est pour ça qu'ils ont changé, pour faire plus de place, rentrer plus de billets.
C'est ça.
Et tu me disais la dernière fois qu'il rentrait 10 000 personnes de plus qu'au stade du Ré.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en moyenne, ouais.
Mais on dirait pas, en fait.
Oui, c'est ça, mais c'est parce que vu que le stade est énorme,
c'est un truc de fou.
On dirait pas.
Le troisième pire stade, c'est le stade de Lille, le stade Pierre Mauroy.
Ah oui.
Alors, le stade au toit, ils ont un toit, c'est bon, je vois pas à quoi ça sert dans un club un stade de foot d'avoir un toit. Mais non, le niveau du stade, en fait, l'architecture, c'est un stade qui est trop béton, je trouve. Il y a trop de béton, c'est trop carré. C'est un stade un peu allemand, on dirait. L'ambiance, je sais pas trop. C'est bizarre. Il y a une tribune de supporters. En fait, il y a de l'ambiance que quand ils jouent contre Lille et quand ils insultent, contre Lens, pardon, et quand ils insultent les Lensois un peu de consanguin, c'est tout. Sinon, après, il n'y a pas d'ambiance. La pelouse, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Bah, pareil, l'histoire dans ce stade, en fait, c'est pareil. Ils ont changé le stade je sais pas du tout, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une bonne dizaine d'années,
ouais,
je pense.
Ouais, c'est ça, grosse dizaine d'années.
Mais avant, ils jouaient dans le stade. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il y avait eu, là, dans ce stade-là, il y avait de l'histoire. Ils ont raté une qualification en Coupe d'Europe pour un but à la dernière minute qu'ils ont pris. Donc voilà, ce stade-là, franchement, quand je regarde des matchs, en plus, il est toujours à moitié vide, pareil.
Parce qu'il est énorme. Hein,
ouais, j'aime pas aussi, les stades à étage comme ça, mais je crois qu'il y a 50 000 places, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, gros stade, de stade Pierre Mauroy.
Et en plus, ah oui, petite subtilité assez intéressante, c'est que le stade s'appelle Pierre Mauroy, qui était le nom du maire.
Ouais, du maire de Lille.
De Lille. Sauf que ce maire-là, justement, ne voulait pas qu'il y ait la construction d'un nouveau stade quand il était en poste en tant que maire. Donc, ils ont donné le nom du stade au nom du maire qui ne voulait pas de stade. Assez intéressant, assez subtil comme histoire. Donc voilà, le quatrième stade, c'est le stade de Montpellier, le stade de la Mosson.
De la Mosson, oui.
Que je trouve extrêmement moche, déjà.
Ouais, je suis d'accord.
Avec les tribunes qui montent à 50 mètres de haut. En fait, ils sont pris pour le Camp Nou.
Surtout la tribune qui monte au haut est tout le temps bâchée.
Elle est bâchée. Il y a personne, pourtant, qui sait qui va aller là-haut. Quoi. Tu vois les joueurs, il te faut des jumelles pour voir les joueurs. Ambiance vraiment pas ouf. La paillade. La bonne de la paillade a fait 5 places. À part balancer des fumigènes sur le terrain quand ils sont énervés. La pelouse, pareil, pas fou. L'histoire du stade, bon, par contre, niveau de l'histoire, il y a de l'histoire. Il y a le titre, il y a des matchs européens, il y a plein de choses. En fait, chaque équipe a son histoire, chaque stade a son histoire, à part les nouveaux stades.
Ouais.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le stade de Montpellier. Ah oui, Nicolin se bat depuis quelques temps pour justement faire un nouveau stade.
En faire un nouveau ou le rénover
Faire un nouveau stade, sortir. Là, le stade est dans un quartier. Ils veulent sortir un peu de ce quartier, veut faire un stade un peu plus moderne. Bah, je pense que c'est une bonne idée.
Ouais.
Descendre les tribunes, ce serait pas mal. Et ensuite, dernier, mais j'ai un petit bonus encore. Donc, dernier, avant-dernier, le stade de l'Aube, le stade de Troyes,
ouais.
Qui est déjà l'architecture, je déteste ce stade. En fait, j'aime pas les stades ouverts. Donc là, il y a ouvert à chaque tribune. Pardon, je trouve ça assez horrible. Pareil pour l'ambiance, il n'y a pas d'ambiance. La pelouse, elle est pas ouf. L'histoire dans le club, dans le stade, c'est pas non plus extraordinaire. Moi, je regardais des matchs quand ils étaient en Ligue 2, parce que Toulouse était en Ligue 2. Il y avait deux fois plus. Il y avait au moins deux fois plus de supporters dans le stade quand ils étaient en Ligue 2 que quand ils sont en Ligue 1.
Ça fait comme Bordeaux aussi, un peu.
Ouais, voilà.
C'est comme ça.
Donc, je trouve ça assez bizarre. Alors, le bonus que je voulais dire, c'est le stade de Monaco.
Parce que Louis II.
Je l'ai pas dit, Louis II, quand même. Mais il faut le dire. Au niveau de l'architecture, c'est un très beau stade.
Ouais, ça c'est vrai.
Je trouve que avec je sais pas comment ça s'appelle, la sorte d'art de cercle qui passe là, on dirait un peu le truc des JO. Très joli. Bon, l'ambiance, je sais même pas si j'ai besoin d'en parler. Je sais pas s'ils connaissent le mot ambiance à Monaco. Tous les fils à papa qui viennent au casino, ils vont pas voir les matchs de foot. Hein. Pelouse, bonne. Histoire,
bonne.
Forcément, grande histoire.
Grande histoire.
Donc voilà, mais je voulais pas le mettre dans le classement parce que c'est quand même une équipe.
C'est à part.
C'est à part, Monaco, c'est différent. Ouais. Déjà, c'est pas en France.
Ouais.
Donc, mais bon, ça joue en Ligue 1, mais c'est pas un stade en France. Donc voilà, c'est ça pour mon classement. Je sais pas ce que t'en penses, t'es d'accord ou pas.
Ouais, bah dans l'ensemble j'étais plutôt d'accord, peut-être tout à l'heure quand on avait parlé des plus meilleurs stades, ouais peut-être la Beaujoire quand même, gros stade français, oui, grosse histoire, comme une ambiance,
c'est vrai.
Meilleures ambiances de Ligue 1, mais après de toute façon c'est les classements comme ça, j'en vois souvent sur les réseaux sociaux, mais tu sais où il y a que l'ambiance et à chaque fois personne n'est d'accord pour mettre tel ou tel devant, mais ouais c'est ça, t'as des stades même ou même le Roazhon Park. Ces
oui,
dernières années.
Oui, mais...
Et là, c'est parce que c'est vraiment une montée en puissance
oui,
un
voilà.
peu du stade qui est en train de s'installer comme un des meilleurs stades en France.
Ouais.
Mais ouais, après, pour les stades avec les pires stades, ouais. Peut-être si on était la saison dernière, j'aurais mis le Matmut Atlantique.
Ah oui, oui.
Parce que pareil, du coup, nouveau stade, énorme.
Oh là là,
mais cette année, ils se remplissent 4 fois plus que l'an dernier. Après, ça, je sais pas, ça aide peut-être d'être en haut du classement de Ligue 2 plutôt qu'en
ah
bas
oui.
du classement de Ligue 1, mais bon.
Mais il est horrible le stade. Moi, je déteste ce genre de.
Ouais,
de l'extérieur, une fois.
Le Matmut Atlantique, ouais, il est pas.
Il est pas moche de l'extérieur. Mais de l'intérieur, là, j'aime pas les stades étagés comme ça.
Ouais.
Et il était mieux Chabon-Delmas, hein, quand même.
Oui, mais clairement, Chabon-Delmas.
D'ailleurs, le rugby, ils sont dedans maintenant. Et
c'est plein à chaque fois.
C'est toujours plein.
Voilà, donc on tourne cette petite page donc, des classements des stades de Ligue 1. Et donc, on va un peu parler de la course à l'Europe. Donc, pour moi, il y a deux courses à l'Europe. On a une course à la Ligue des Champions qui est en train de se réduire. Donc on a Marseille 2e, Monaco 3e, Lens 4e, avec Marseille quand même que je place au-dessus, parce qu'à mon avis, Marseille, ils vont être 2e. Et derrière, Monaco et Lens. Lens un peu plus en peine que Monaco. On voit quand même plus les Monégasques terminer 3e. Et derrière, c'est là que c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des dynamiques vraiment différentes et un peu une élimination par le bas. Donc il y avait un peu 6 équipes qui étaient encore dans la course pour du coup cette 5e place. Et pour moi pareil, Lyon et Lorient sont un peu disqualifiés avec leurs matchs nuls respectifs et même les deux, ils alternent des victoires inespérées, des matchs nuls, des défaites. Ils sont pas vraiment dans des dynamiques pour aller à l'Europe. Il y a Reims 8e, qui remonte petit à petit.
Ouais.
On peut se poser la question, est-ce que si leur dynamique s'arrête pas, est-ce qu'ils peuvent rattraper Rennes 5e, ils sont à 6 points. Pourquoi pas. Juste au-dessus, il y a Nice 7e. Un peu comme Reims, une bonne dynamique, mais là, le coach raté contre Auxerre, le match nul, un calendrier favorable. Nice, sur les 13 derniers matchs, joue seulement Rennes, Lyon et Paris, donc seulement entre guillemets 3 gros matchs, même si à voir, mais quand même les équipes qui sont là depuis plus longtemps, c'est Lille et Rennes, malgré donc leurs résultats un peu mitigés, un peu irréguliers, ils ont quand même de l'avance sur leurs concurrents, Rennes 46 points, donc de l'avance, 4 points d'avance sur le 7e, Lille 45 points, donc on voit mal comment ces deux équipes avec leur effectif pourraient laisser échapper donc cette 5e place européenne, puisque la 6e là sera... ne le sera pas. Donc avoir une course à l'Europe toujours ouverte, on n'est pas à l'abri. Je sais pas si Reims gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison. La Ligue Europa pour Reims. T'en penses quoi, Thomas?
En fait, t'as un peu résumé vraiment la situation, quoi. Y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, moi je pensais la même chose, qu'une course avec 7 ou 8 équipes.
Ouais, c'est ça.
Paris, Marseille, Monaco, Lens, Rennes, Lille, Nice et peut-être Reims. On sait
ouais.
Pas. Deux courses, comme tu l'as dit.
Ouais, déjà très, très fractionné, quoi.
Ouais, il y a une course pour Ligue des Champions entre Paris, Marseille, Lens et Monaco. Et une autre course pour l'Europa avec les autres, quoi, qui restent. C'est vrai que c'est dommage de voir Lyon absent de la course.
Ouais.
Pour la deuxième fois d'affilée.
Ça fait mal.
C'est vrai que ça doit faire mal à Jean-Michel Aulas. Après, ils l'ont mérité, hein. Donc, je me suis amusé à faire un petit pronostic. Je prends pas trop de risques, hein, je vais pas te mentir. Paris premier.
Mm-hmm.
Malheureusement, Marseille ne pourra pas, à mon avis. Ils ont eu l'occasion.
Chercher le titre, ouais, ça.
Ils ont eu l'occasion.
Loin.
Ils l'ont laissé passer. Tant pis pour eux. Voilà. Après, on ne sait pas. Paris, s'ils sont éliminés demain, enfin après-demain, non demain, contre le Bayern, ils peuvent avoir aussi un gros coup de mou et plonger. On verra. Donc, Paris premier, Marseille deuxième, troisième Monaco, parce que je pense que Monaco a un effectif qui est deux fois plus dimensionné pour jouer
taillé,
la troisième place.
Taillé pour le podium. Ouais.
Que Lens, on voit qu'ils commencent à pêcher quand même un peu. Puis même Lens, franchement. S'ils finissent quatrième, pour eux, c'est une saison, mais alors vraiment réussie.
Exceptionnel, oui.
Ah ouais, c'est énorme.
Historique.
Ah ouais. Donc après, pour l'Europa, je vois Lens, du coup.
Quatrième.
Et Rennes, cinquième.
Cinquième.
Rennes, je ne les vois pas se faire rattraper. Je pense qu'ils ont fait trop de bonnes choses pour se faire rattraper. Ça serait injuste.
Ça
serait, enfin, Ça serait injuste.
Oui, ils sont montés trop haut. Ouais. Même s'ils sont réguliers, ils ont les armes.
Le foot est injuste
pour
aussi.
Pour rester,
ouais. Mais attention à Nice derrière, qui, s'ils arrivent à... Après, c'est toujours pareil en Ligue 1, t'enchaînes 3 victoires. Tu montes de
5 places.
Voilà,
même,
c'est tellement serré. Lille aussi. Lille-Nice, c'est pareil. J'ai l'impression qu'ils peuvent faire, ils peuvent arriver 5e comme ils peuvent descendre.
Ouais, à tout moment. Ou même,
et Reims, après, pareil, j'en ai pas parlé, mais. Reims, c'est bien ce qu'ils font. Alors, je vais dire quelque chose, ça c'est cruel. J'espère qu'ils ne seront pas en Coupe d'Europe.
Oui, ça serait dur pour le foot français.
Parce que si Reims est en Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire en Europa League l'année prochaine ?
Rien,
tout simplement. Ben voilà, donc ce serait un peu dommage. Pareil pour Lorient. Lorient, ce qu'ils font là, c'est une super saison pour eux d'être 7e, de se battre pour l'Europe, alors que normalement ils devaient se battre pour le maintien.
Ouais.
Mais pareil, j'ai pas envie qu'ils soient en Coupe d'Europe. T'imagines si t'as Lorient. En Coupe d'Europe, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Non, Lorient, je pense que c'est fini. Là, ils sont trop. Après, comme tu disais tout à l'heure, t'enchaînes des victoires. Bon, oui. Ça m'étonnerait de Lyon, mais imaginons que Lyon, pareil, enchaîne, je sais pas, 4 victoires. Ils reviennent à 3 points de Rennes, c'est toujours pareil. C'est,
après,
c'est qu'en fait, c'est qu'il y a quand même seulement, c'est ça, c'est 7 points entre Lyon 10e et Rennes 5e. Ça paraît beaucoup, mais. Ça se remonte.
Pour moi, les places devant, elles sont figées. Je pense que ça bougera pas.
Ouais,
enfin,
devant,
Lens,
les
Monaco qui vont
inverser. Les 4 premiers, voilà. Ils seront européens, ouais.
Même Rennes.
Même Rennes.
Il faut vraiment que Rennes ait une grosse défaillance, je pense, pour perdre sa place.
Ouais.
Donc, à voir, mais ça risque plus trop de bouger. Ce qui va être intéressant, c'est la lutte pour le maintien.
Ouais, la lutte pour le maintien, ouais, c'est vrai que. Avec on pourrait, faire la semaine prochaine un petit focus sur la lutte pour le maintien.
Ouais, ouais.
Bon, ben voilà pour cette course à l'Europe qui sera quand même haletante jusqu'au bout. Pour voir qui finira exactement à quelle place. On enchaîne avec nos top flops. Donc moi, mon top, c'est Montpellier qui retrouve quelques couleurs. Donc une victoire 5-0. Donc ils sont bien loin de il y a un mois et demi, où ils étaient vraiment très mal et presque dans la zone rouge. Et mon flop, c'est Strasbourg qui perd des points vraiment plus que précieux. Une défaite 1-0 face à Brest, c'est ça, à domicile. Donc face à un concurrent direct. Chez eux, alors que normalement Strasbourg à la Méno, c'est quand même plutôt solide. C'est les Strasbourgeois qui lâchent vraiment des points importants.
Ouais, c'est dommage. Moi, donc en top, j'ai choisi Brice Samba, qui pour moi a tout simplement sauvé Lens, hein, parce que il fait 4 ou 5 arrêts ultra décisifs dans le match, même s'il prend le but, qui est un peu chanceux parce que il fait un arrêt, il refait l'autre arrêt. Et après, bon, il la pousse au fond, le joueur lillois, je ne sais même plus que c'est qui a marqué. Mais Saka, je trouve un peu une mauvaise seconde mi-temps de Lens. Ils ont fait une bonne première, ils ont bien entamé, bon, même si c'est Font qui marque contre son camp. Mais la deuxième mi-temps, j'ai trouvé vraiment Lille vraiment largement au-dessus. Ils ont, dans le jeu, dans les courses, j'ai l'impression que Lens, il marque un peu le pas. Et je voulais finir en disant que Samba, il y a bientôt la liste de Didier Deschamps, là. C'est dans 10 jours, je crois, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, c'est le 16, je crois.
Ouais, le 16 dans 10 jours. Ben, je pense que Samba, il mériterait d'être appelé en équipe de France. Parce que c'est peut-être pas en numéro 1,
non,
mais en numéro 2, je pense qu'il fait largement le travail. Mon flop, eh ben on va rester sur les gardiens, tiens, c'est Donnarumma. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Donnarumma, c'est assez fou. Déjà qu'il n'est pas rassurant, ni au pied, ni à la main, ni dans les airs. En fait, il est rassurant, sur le banc, il serait rassurant hein, pour les supporters. Non, mais en fait, il est très grand.
Ouais.
Il prend beaucoup de place sur le but, sur la ligne. Il peut faire des arrêts exceptionnels, mais tu lui donnes la balle au pied, tu sais pas si la balle elle va repartir en fait. Hein. Pareil dans les sorties aériennes, t'as l'impression qu'il est, il sait pas où, je sais pas, il a pas une bonne vision, j'ai l'impression de l'espace. Bah, le but de Blas contre le PSG où il centre, enfin il fait un centre tir, je pense qu'il veut tirer. Il tire et rentre au premier poteau, alors que jamais, enfin, Donnarumma, il doit fermer le premier poteau, jamais doit y avoir ce but. Pareil, Paris qui gagne 2-0 contre Nantes, ils sont revenus à 2-2 avant la mi-temps, j'avais l'impression d'en voir le match contre Lille.
Ouais.
Avec Donnarumma, avec deux erreurs, on va dire, de Donnarumma. D'ailleurs, c'est pas la seule erreur qu'il fait, je me rappelle du but de Van den Bomen avec Toulouse sur le coup franc, où en fait, il tire du côté ouvert, du côté où il y a le gardien, et il y a but en fait, parce que Donnarumma, il part sur le côté. Donc, petit problème. Et en fait, le PSG, ils ont besoin de quoi ? D'un gardien, comme Navas le faisait, qui a un tir dans le match, mais qui fait l'arrêt.
Ouais.
Ou deux tirs et qui fait l'arrêt. Alors, tandis que Donnarumma, il prend deux buts, et après, il commence à faire des arrêts. J'ai Lionel Charbonnier qui dit ça sur RMC Sport, il disait que en fait Donnarumma, t'as l'impression qu'il prend deux buts, après il se met dans le match. En fait.
Après il se réveille, ouais. Voilà. Ouais, faut qu'il se réveille.
Il faut qu'il se réveille.
Des buts.
Ben voilà, c'est complètement fou.
Ouais.
Bon, après, je vais apporter de la nuance parce qu'il est encore jeune.
Ouais, il est jeune. 23, non ?
Et moi, je pense qu'il a une marge de progression assez énorme et qu'il peut devenir potentiellement, j'ai pas dit qu'il le serait, potentiellement un des meilleurs gardiens du monde. Je pense qu'il a vraiment ce potentiel-là, qu'il améliore son jeu au pied et sa vision de l'espace.
Voilà, on clôture donc maintenant notre page Ligue 1. Vous écoutez bien le 12e homme sur Radio Campus tous les mardis soirs. Et voilà, on ouvre notre petite page voyage, donc comme d'habitude, et on va parler de la Super League, donc un projet qui avait échoué il y a un an et demi, si je me souviens bien. Est-ce que c'est de nouveau l'heure de la Super League, Thomas ?
Ah bah, je pense que quoi qu'il arrive, la Super League, elle aura lieu, qu'on le veuille ou non. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir ? Déjà, le lancement. La Super League, ça a été en 2021.
Ouais, c'est ça, ouais. Deux ans.
Voilà, alors il y a eu. Bah, les gros clubs sont associés, notamment le Real, Chelsea, le Barça.
Les clubs anglais, il y avait presque tous les gros clubs anglais.
Les gros clubs anglais, l'Inter, la Juve, Milan, bref. Il n'y avait pas de club français.
Non.
Et les supporters, ils l'ont mal pris. Parce que ils ont dit c'est le foot, c'est la mort du foot populaire.
Il y avait eu des manifestations.
Il y a un match de United qui a été interrompu pendant 45 minutes. Les supporters étaient rentrés sur le terrain, ouais. Je m'en rappelle. Donc le projet il a un peu coulé. En plus, on a eu une sorte de guéguerre entre l'UEFA et les clubs de la Super League,
ouais.
Avec notamment Agnelli et Seferin.
Ouais.
Qui sont rentrés en guerre. D'ailleurs, il faut savoir que Agnelli et Seferin étaient très amis d'ailleurs. Et je crois qu'il y en avait un qui avait ses enfants.
Parrain de l'autre.
Donc bon, ça a un peu cassé leur relation. Justement, l'UEFA a menacé les clubs de sanctions. Ils ont mené certaines actions en justice. Et il y en a un qui a profité de tout ça.
Le PSG.
Nasser Al-Khelaifi, qui a pris la place d'Agnelli, qui était président du comité de l'ECA, c'était l'association des clubs européens, qui a pris donc la place de Agnelli. Et qui du coup maintenant, il mange un peu dans la main de Seferin pour le fair play financier. Comme ça, ils ont un peu plus de largesse pour être bien vus. Donc, on a dit que c'était une lutte entre le foot populaire d'un côté et le foot des riches. Alors ça, pour moi, c'est faux. Y a pas, pour moi, cette lutte-là, elle est totalement fausse parce que vous regardez les clubs qu'il y a en Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes. Donc, on peut dire que la Ligue des Champions, enfin, en soi, elle n'est pas fermée. Mais
non, elle n'est pas fermée. Ouais.
Vous regardez. Qui c'est qu'il y a toujours en demi-finale ? Il y a le Real Madrid qui est là tout le temps, le City qui est là tout le temps,
Bayern.
Liverpool, Bayern, le PSG qui peut sortir en 8e, mais ils sont là. Enfin, il y a toujours, toujours les mêmes clubs en fait, Dortmund, tout ça, l'Ajax. Ouais, ouais. Vous regardez en fait, il y a.
Oui, c'est ça, t'as eu une ou deux surprises par an, mais ça reste des clubs de toute façon qui sont riches en fait aussi. Hein.
Cette année, la surprise c'est Naples, c'est Bruges et Francfort. Voilà pour moi.
Oui, qui sont pas moins des habitués.
Il y en a deux qui vont se faire sortir. Sur les trois. Bruges, ils ont perdu contre Benfica les 2-0.
Ouais.
Et Francfort a perdu contre Naples. Naples va passer. Naples va peut-être gagner avec des champions, ce qui serait assez fou. C'est comme l'Ajax, c'est l'année où ils vont en demi-finale.
Ouais.
Où ils perdent contre l'Ajax. Contre
Tottenham.
Tottenham avec le triplé de Lucas Moura. Il a fait un mal dans sa carrière, c'est pour éliminer l'Ajax. C'était assez dégoûté ce soir-là. Bref. Donc voilà. Et en fait, les clubs anglais, sous la pression de leurs supporters, ils ont lâché le projet.
Ouais.
Ils sont tous partis, ils ont dit en fait, notre championnat, c'est un peu une Super League, hein, déjà.
Mais oui, alors qu'eux aussi, c'est toujours les mêmes dans les six premiers.
Toujours les mêmes. Et il y a Newcastle qui arrive maintenant, attention.
Ouais, mais c'est pareil, parce que du coup, c'est le même schéma. Voilà. Hein.
Et t'as les deux clubs de Milan, l'Inter et l'AC Milan, qui eux aussi sont partis. Mais, attention, il y a une résistance de trois clubs, de la Juve. La Juve qui est d'ailleurs un peu dans le pétrin en ce moment. Agnelli est parti d'ailleurs. Du Real. Et du Barça, qui sont toujours dans le deal. Et alors, du coup, là, il y a une interview, il y a milieu de l'année dernière ou début d'année, où il y a un représentant qui a donc parlé de nouvelles formes pour la Super League, parce qu'avant, on parlait d'un championnat fermé, avec des clubs qui seraient là tout le temps. Bref, c'était pas très très clair, c'était pas très très, 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 très bon comme format, je trouve. Donc là, le format serait les clubs, il n'y a pas de club permanent.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se qualifierait comme pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième dans certains championnats. En fait, ils n'ont pas encore expliqué dans le détail, mais ce serait un peu le même système. Avec un format avec des divisions, un peu comme la Ligue des Nations. Il y aurait 60 à 80 équipes, avec une première division, une deuxième division, peut-être une troisième, je ne sais pas. Avec 14 matchs par équipe. Donc, notre joueur à mini-championnat.
C'est beaucoup ça.
14 matchs. Je vais venir sur le calendrier. 14 matchs par équipe dans l'année. Hein. 14 matchs par équipe.
En comptant pas, les... jusqu'à la finale.
Voilà.
Leur finale. Voilà.
Ouais, parce que du coup, en Ligue des Champions, il y a quoi? Il y a 6 matchs de.
Oui, en fait, il y en a presque 14 aussi. Hein.
6 matchs de groupe, il y a 8, 9, 8e, 10, 11, quart, 12, 13.
Oui, 8, c'est pareil.
Et 14 finales. C'est la même chose.
C'est la même chose.
Donc voilà. Je fais le décompte en direct. Je ne suis pas très fort en maths, mais. Donc voilà. Et. Donc voilà, mais le problème, c'est le calendrier. Alors, on met les matchs quand? On met les matchs le week-end. Ce qui ferait qu'on mettrait un peu les championnats nationaux sur le côté. On met les matchs en semaine, mais alors, il y a déjà la Ligue des Champions la semaine. Les clubs. Comment les droits télé, comment ça va s'organiser, les clubs qui sont du coup en Super League, bah, forcément ils vont plus jouer en Ligue des Champions vu que l'UEFA va les bannir. Donc va falloir voir. Mais ils ont dit qu'ils feraient un calendrier adapté à la santé des joueurs. Bon, on la connaît celle-là, hein. Adapté à la santé des joueurs, c'est comme quand tu fais la Coupe du Monde en hiver, c'est vachement adapté à la santé des joueurs.
Oui.
Donc voilà, on aura... Alors, je ne sais pas s'il y aura une phase finale ou pas, genre 8e quart demi-finale, ou si c'est premier... qui gagne le titre, ou alors c'est les deux premiers de deux poules de la première division qui s'affrontent en une finale.
Oui, un petit...
Ils n'ont pas dit, ils ont rien dit, donc je ne sais pas encore. Bon, il y a encore du travail pour faire la version. En tout cas, moi je ne suis pas contre, vu que l'UEFA est en train de détruire avec des champions.
Oui, vu qu'ils veulent changer le format aussi, pareil.
La suppression des buts extérieurs, qui pour moi est une aberration, mais alors totale, ça enlève justement toute la magie de ces buts. Franchement, si les buts extérieurs, on n'aurait pas eu la remontada, parce que. Quand Cavani marque, il y a le but pour mettre un but. Bref, et ben là tout le monde se dit putain le Barça ils vont jamais revenir et en fait tu vois, ils reviennent et ça rajoute un truc en plus dans le match.
Ouais.
Tu vois, il y a tous les buts à l'extérieur, c'est très important. Après je vous parle même pas de la nouvelle formule qui arrive, qui est juste horrible. Après. Là, il y a des négociations entre les clubs et Seferin pour modifier cette formule, même avec la Super League, pour pourquoi pas l'UEFA acheter le format de la Super League et faire bah justement la Ligue des Champions avec le format de la Super League. Ce qui serait quand même un coup de force de l'UEFA, je trouve.
Oui.
Donc, moi, j'avoue que si on garde la formule actuelle de la Ligue des Champions, qu'on remet le but à l'extérieur, je me lide pour qu'on garde cette formule qui est actuellement, je trouve, la meilleure.
Ouais, après c'est ça, parce que la Super League, ce qu'il dit, c'est dans tous les cas, c'est un foot business dans tous les cas. Ah oui. Parce que c'est soit l'UEFA qui s'en met plein les poches, ou là c'est ce que disent les clubs, en fait ils en veulent encore plus, même s'ils ont déjà beaucoup d'argent qui leur revient grâce à la Ligue des Champions. Quoi.
Bah, ça serait bien pour les clubs hors Angleterre. Quoi.
Ouais.
Si t'as les clubs français qui arrivent à avoir des revenus
plus élevés grâce à cette Super League.
Pourquoi pas, ça permettrait de faire jouer, devenir des meilleurs joueurs. Faut voir.
À voir. Donc on enchaîne avec un bref point sur le Pau FC. Donc le Pau FC qui a perdu 1-0 à Amiens lors de la dernière journée de Ligue 2 et le Pau FC qui se rapproche, mais alors j'ai l'impression qu'on le dit toutes les semaines, mais qui se rapproche dangereusement de la zone rouge. Pau FC est 16e, donc premier dans leur.
Ils avaient 6 points d'avance.
Ouais, ils ont 1 point.
5 points, 4 points, et là maintenant 1 point sur Dijon, je crois.
1 point sur Dijon et 2 points.
Et Nîmes derrière.
2 points sur Rodez.
Et à Nîmes après.
Et 4 points sur Nîmes et Niort. Voilà, et 4 points.
4 points, ça va vite.
C'est pas beaucoup. S'ils perdent et qu'un des deux gagne,
bah
c'est un point.
Dijon, derrière, ils ont un effectif qui est deux fois plus compétitif que celui de Pau, quand même.
C'est ça. Ouais. Donc, attention, ça va être dur jusqu'au bout pour le maintien. C'est que la 26e journée, mais ça sent mauvais, quand même, pour le Pau FC.
Alors, je voulais dire un petit mot aussi avant de conclure. C'était pour rendre hommage à Juste Fontaine, quand même, qui est décédé la semaine dernière, à 89 ans. Donc, pour dire que quand même, c'était quand même un très très grand attaquant. Peut-être pas reconnu à sa juste valeur. Il a fini, je crois, sur le podium du Ballon d'Or une ou deux années. Il était un peu pris par Raymond Kopa qui prenait un peu toute la lumière. Mais record de buts en une Coupe du Monde, 13 buts, qui je pense ne sera jamais battu parce que le format n'est plus le même. Puis en plus, il atteint ce record, je crois qu'il tirait pas les pénaltys en plus. Hein. Donc c'est assez fort ce qu'il a fait, le quadruplé en match pour la 3ème place. Donc bah voilà, je voulais juste un petit hommage à Juste Fontaine.
Voilà, un très grand du football français qui s'en est allé. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve donc mardi prochain, à la prochaine.